Et j'aimerais ce matin qu'on s'arrête un petit peu sur un texte de l'Ancien Testament, un drôle de texte, mais que j'aime bien. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 3, versets 9 à 24, si vous voulez chercher après, mais je vous raconte l'histoire. Et donc c'est l'époque en Israël où il y a la séparation, enfin il y a une division politique entre le royaume de Juda, qui a un roi, et puis les autres tribus qu'on appelle le royaume d'Israël, mais les deux c'est des Israélites, hein. Et puis, il ne se passe pas la même chose dans ces deux royaumes, et dans l'ensemble, le royaume de Juda, même si ce n'est pas parfait, loin d'être parfait, mais va plutôt mieux spirituellement que le royaume d'Israël, où là, c'est vraiment la débauche la plus complète avec ce qu'on voit aujourd'hui, de nos jours, la même chose, quoi. Pas pire, mais pas mieux. Et finalement, quand même, le roi d'Israël veut partir en guerre parce qu'un de ses vassaux a arrêté de payer ses taxes, et puis il se dit qu'il faut aller un peu lui taper dessus pour qu'il continue de payer. Et il demande au roi de Juda de l'accompagner, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils ne sont pas vraiment amis. Le roi de Juda dit « Ok, on y va ». Alors, ils partent, ils rassemblent un paquet de bonhommes, d'animaux, pour porter tout ça. Chacun prend son bout de métal affûté pour essayer de le plonger dans les tripes de l'ennemi. C'est super comme préparatif. Et ils partent, mais c'est une région sèche, c'est une période sèche, et ils se retrouvent au milieu de nulle part, et il n'y a plus d'eau. Et il n'y a plus d'eau pour les humains, et il n'y a plus d'eau pour les animaux. Et là, ils pensent qu'ils vont mourir de soif. Et là, donc, c'est là que notre histoire se situe. Et c'est intéressant parce que y a la réaction des deux rois. Hein. Et le roi qui a mis en marche tout ça, quand il voit qu'il n'y a plus d'eau et qu'ils sont dans le désert, qu'est-ce qu'il dit ? C'est certainement l'Éternel qui nous a attirés ici pour nous livrer aux mains de Moab et nous faire périr. Le gars, il est un peu bizarre, quoi. C'est lui qui décide d'y aller, il y va, il se prépare apparemment mal, puisqu'il n'avait pas assez d'eau ou je ne sais pas quoi, et puis quand ça tourne mal, c'est sûr que c'est Dieu qui est contre nous et qui veut nous détruire, quoi. Et puis le roi de Juda qui est là dit, mais il doit y avoir une solution. Est-ce qu'il n'y a pas parmi nous quelqu'un qui sait écouter la voix de Dieu. Et vous voyez, ces gens-là, c'est tous des croyants, entre guillemets. Hein. Ils ont tous connu la loi, ils savent tous Moïse, Abraham, l'histoire, ils se réclament tous de... etc., etc. Mais ils ne savent pas écouter Dieu. Et, par hasard, le hasard fait bien les choses. Hein. Il y a un prophète qu'est-ce qu'il fait là, on ne sait pas. Parce qu'il est de mauvaise humeur, il n'a pas envie d'être là, mais il est là. Il est parti avec les bagages, les femmes, les enfants... Hein. Et donc, on le cherche, et c'est Élisée, hein, on connaît bien le prophète Élisée. Et puis, le roi d'Israël va le voir, et puis lui dit, consulte l'Éternel pour savoir ce qu'il faut faire, parce qu'il veut nous faire mourir. Et Élisée dit ceci, au verset 14, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu des armées célestes, dont je suis le serviteur et vivant, je t'assure que si ce n'était pas par égard pour Josaphat, roi de Juda, je ne prêterai aucune attention, je te regarderai même pas. » Cool le prophète. Hein. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et quand le harpiste se mit à jouer, l'Éternel se saisit d'Élisée. Et il dit, voici ce que déclare l'Éternel. Et puis il va leur dire ce qu'il faut faire. Hein. Et déjà, j'aimerais m'arrêter là. Alors je sais qu'on ne peut pas inventer des doctrines en faisant des structures et des histoires de l'Ancien Testament. Mais tout ce que je dis, ça se trouve aussi dans le Nouveau Testament, mais c'est illustré par cette histoire-là. Et je crois que dans nos vies, dans notre pérégrination terrestre, on a tous en nous le roi de Juda et le roi d'Israël. Hein. Un côté de nous qui veut suivre Dieu, qui aimerait écouter sa voix, qui aimerait faire sa volonté, qui a quand même envie de... Et puis, il y a l'autre voix en nous, hein, c'est pas le diable, hein, c'est juste nous, mais qui... En fait, j'ai surtout envie de m'occuper de moi, et puis de faire mes affaires en moi, et puis c'est un peu le roi de l'évangile selon moi. Hein. Aimez-moi les uns les autres, occupez-vous de moi, Dieu bénis-moi, occupe-toi de mes affaires à moi, et puis gros gnon. Et d'un coup, on se retrouve dans une situation qui est compliquée, parce qu'on a tous des situations compliquées à un moment ou à un autre, et des fois à beaucoup de moments, et plus qu'à d'autres. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un prophète dans les bagages. Dieu nous a donné pas juste ses pensées, pas juste des directives, pas juste un code moral, ce qui est aussi, hein, qui est super. Je vous enverrai mon esprit, et il l'a fait. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Si on est enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit, c'est 1 Corinthiens 12 qui nous le dit. Mais la Bible ne nous dit pas juste qu'on a été rempli du Saint-Esprit ou baptisé dans le Saint-Esprit une fois, puis que ça suffit. Hein. Sans arrêt, le Nouveau Testament nous dit « Soyez sans cesse remplis de l'Esprit jusqu'à toute plénitude ». Ce n'est pas un truc une fois pour toutes, c'est comme si vous achetez une voiture, vous faites le plein et puis vous roulez, puis quand il n'y a plus d'essence, vous jetez la voiture. Non, on refait le plein. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je refais le plein. Il y en a qui jettent la voiture, peut-être. Mais ce n'est pas une option, ce n'est pas un machin pour les sentimentiques, poétales, bizarres, un peu mystiques, qui aimeraient avoir les poils du dos qui se hérissent. Non, non, c'est juste... Jésus nous dit, la marche chrétienne, elle n'est pas possible sans le carburant de l'esprit. Ce n'est pas possible. Hein. Mais on voit que, ben, comme ces gens-là, on se retrouve dans une situation compliquée, et puis, voilà. Quoi. Et je trouve que c'était magnifique ce qu'on a. Moi, j'aime bien quand je peux parler de ce qu'on a déjà vécu. Hein. C'est plus facile que de dire ce qu'il faudrait faire. Et ben, c'est ce qu'on a pu expérimenter encore ce matin, que j'ai pu vivre aussi ce week-end, mais par ce moment de méditation sur les paroles des chants, avec la musique, tous ensemble, etc., réfléchir sur ce que Christ a fait pour nous, sur ce que Catherine nous a partagé, qui était juste magnifique. Merci Catherine. Non, sérieusement, ça m'a beaucoup touché, puis comment ça se met ensemble, tout ça. Et ben, il me semble que le harpiste est passé. Et puis maintenant, le prophète est de bonne humeur. On peut écouter, hein, ce qu'il a à nous dire. Et ce qu'il a à nous dire, c'est pas toujours, mais c'est pas souvent ce qu'on a envie d'entendre. Cette dame, elle n'avait pas envie de faire le ménage dans sa maison. Alors le Saint-Esprit, il n'agresse pas, il ne viole pas, il ne possède pas. Elle est très très belle cette histoire comme illustration parce que... Hein, j'étais touché la semaine dernière par ce texte qui s'adresse à l'Église, hein, pas aux non-chrétiens. Ben, c'est pas faux pour les non-chrétiens, mais... « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend, déjà, et ouvre la porte, j'entrerai. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Zachée et tous les autres. Ça, ça devrait être notre expérience quotidienne, ou plus ou moins. Mais, hein. Comment ? Quoi ? Qu'est-ce que ? Ah oui, j'ouvre, j'ouvre pas. Je n'ai pas envie d'ouvrir. Peut-être il faut un peu le harpiste. Ah, je me sens mieux. J'ouvre. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Et là, le prophète, je reviens dans mon texte de Roi 3, il va parler. Et il dit, voici ce que déclare l'Éternel. Creusez beaucoup de fosses dans ce lit desséché. Car l'Éternel vous le dit, ce ravin se remplira d'eau sans que vous voyiez ici ni vent ni pluie. Et vous aurez à boire, vous, vos troupeaux et vos bêtes de somme. Mais c'est encore peu de choses pour l'Éternel. Il vous donnera aussi la victoire. Mais imaginez, vous êtes dans un désert, vous mourrez de soif, vos animaux meurent de soif, il n'y a pas de source, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nuages, et on vous dit, faites des trous. Cool. Ça, c'est une bonne nouvelle, faire des trous. Pourquoi faire ? Nous, on était venus avec nos épées, on n'est pas venus avec des pelles. Quoi. Puis ça fait 15 jours que j'affûte mon épée pour qu'elle coupe bien, pour couper le mec en face en deux. Et maintenant, je dois m'en servir pour faire des trous dans la terre avec les cailloux, ça va la désaffûter, ça va l'abîmer. Faites des fosses et faites-les profondes. Creusez. Et puis, ils font quand même. Et pendant la nuit, il se passe quelque chose, et puis au matin... Au moment de l'offrande, donc c'est juste au lever du soleil, hein, ces fosses se remplissent d'eau. Pas par la pluie, pas par une crue, ça arrive par en dessous et ça remplit ce qui avait été creusé. Ils peuvent boire, les animaux peuvent boire, les ennemis de loin voient toute cette surface avec de l'eau et le soleil qui se lève dessus, c'est tout rouge, hein, vous savez comment c'est, hein, quand il y a le feu au lac, vous connaissez, hein, c'est... Si on vient de là, et ils se disent, ah, ils se sont disputés entre eux là, les deux rois, ils se sont étripés, ils sont tous morts, ben, on va juste aller ramasser le butin, donc ils y vont, coule l'épée sur l'épaule, et ils tombent en embuscade, ils se font tous détruire, bon, c'est assez horrible, parce que voilà, mais c'était comme ça. Et ils ont gagné la victoire, hein, en plus. Et je trouve cette chose-là assez incroyable parce que nous, on aimerait que Dieu réponde à nos problèmes, en les réglant, en supprimant les causes. Et il nous dit, tu sais ce qu'on va faire ? On va creuser. Non mais moi, je n'ai pas envie de creuser, moi. Ça fait déjà mal, c'est déjà vide. C'est déjà pénible de vivre avec cette situation. Moi, je veux que tu enlèves telle personne qui me fait des problèmes, telle situation qui me crée des problèmes, tel problème qui me fait des problèmes. Hein, voilà. Je veux que tu règles ça. Et Dieu dit, on va faire autre chose. On va creuser. C'est la même chose que l'image qui était racontée par Catherine. Hein. On va aller dans la pièce où c'est le bazar. Et on va la vider. Hein. Creuser, vider, c'est la même chose. Nous, on voudrait être remplis de nous et que les choses aillent bien. Et Dieu dit, Paul le dit, hein, nous portons ce trésor dans des vases de terre. D'ailleurs, le mot qu'il utilise, ce n'est pas vraiment des pots de chambre, mais pas loin. C'est le pot de terre le plus bas de gamme dans la maison. Ce n'est pas la belle cruche émaillée, décorée, qu'on met sur une étagère et qui ne sert à rien. C'est vraiment le pot qui sert à transporter tous les trucs qu'on a besoin de transporter pour vivre dans une maison. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et on sait tous une chose évidente, hein, il ne faut pas avoir fait des années d'études pour savoir qu'on ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà plein. Simple. Et le plus gros problème de nos vies, c'est pas qu'on est vide, c'est pas qu'il y a des problèmes, c'est qu'on est plein de ce qu'il faut pas et qu'il faut creuser. Et je vous lis un texte dans le Nouveau Testament, Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit et entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant au Seigneur de tout votre cœur les louanges et rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Les uns aux autres, c'est les uns, les unes et les autres. Hein, ce n'est pas que les uns et les autres. Il hein. y a tout un processus qui est expliqué. Ne vous enivrez pas de vin. Et là, bien sûr, il parle du vin et de l'alcool, mais ça serait assez grave de penser que la seule chose qui n'est pas bonne, c'est de s'enivrer d'alcool. Évidemment que ce n'est pas bien. Mais pas pour la raison qu'on pense. Nous, on pense, ah, c'est pas bien, l'ivresse, parce que ce n'est pas moral. Franchement, Dieu, ça ne le gêne pas trop qu'on boive. Mais l'apôtre Pierre dit, abstenez-vous de toutes sortes d'ivresse. L'ivresse, c'est tout ce que j'utilise pour ne pas considérer le fait que je suis rempli des mauvaises choses. Et donc, je suis vide, mais pas vide. Je suis vide, mais encombré. C'est Gustave Thibon qui a dit, il n'y a rien de plus vide qu'une âme encombrée. Et en fait, l'ivresse, on a tous nos ivresses. Moi, je n'aime pas l'alcool, donc c'est facile de dire, buvez pas d'alcool. Mais je connais mes ivresses à moi. Au lieu d'aller à Christ, je vais faire autre chose. Et puis, ça peut prendre absolument toutes les formes que vous voulez. Pour certains, c'est parler mal des autres. Il y a une ivresse là-dedans incroyable. Parler des problèmes des autres. C'est bien. Il y en a, ça c'est embêtant pour le compte bancaire, mais c'est de faire flamber la carte de crédit. Ils font des projets, ils achètent. Il y en a qui doivent fabriquer des choses. Il y en a qui... Et ce n'est pas des choses qui sont moralement mauvaises. On ne parle pas que du... C'est juste que j'entretiens une sorte d'euphorie autre que celle d'être rempli de l'esprit pour cacher le fait que je suis vide parce que je suis plein des mauvaises choses. Mais quand j'arrive à un moment quand même de crise sérieuse, là on va mourir de soif, et si j'écoute le prophète qui était dans les bagages, et pour ça des fois il faut un petit moment, hein, il faut que les harpistes viennent, il va me dire, tu sais ce qu'on va faire ? On va creuser. Hey, j'ai pas envie de creuser. Ouais, mais on va creuser. C'est ça la solution. Si tu es d'accord, ben, si tu veux pas, tu veux pas. Hein. Je me tiens à la porte, je frappe, si tu ne veux pas, je reste dehors. Tu n'iras pas en enfer, ce n'est pas la question. Mais si tu veux, on va creuser. On va creuser, on va creuser. Et ça fait mal de creuser. Hein. Quand vous avez une dent qui vous fait mal et vous allez chez le dentiste, il ne vous dit pas, il faut oublier que vous avez mal. Qu'est-ce qu'il fait ? Il creuse pour enlever tout ce qui est abîmé. Quoi. C'est... On n'aime pas ça, hein, la fraise. rien que d'en parler. Vous les voyez qui se dressent là, hein? Vous ne les voyez pas? Moi, je les sens qui se dressent sur ma tête. Mais c'est aussi le travail du Saint-Esprit. Quand il sera venu, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est son job. Il vient, il me dit, écoute, ta méthode, elle n'est pas bonne, quoi. Ouais, toi, tu bois, toi, tu lis, toi, tu médites, toi, tu t'assommes avec des séries, toi, tu vas faire du sport, je ne vais plus pouvoir respirer. Et toutes ces choses ne sont pas mauvaises, hein? Sauf si elles deviennent une forme d'ivresse qui fait que je refuse le travail du Saint-Esprit dans ma vie. Alors que, quel est le, d'ailleurs, j'avais prévu ça en introduction, je l'ai oublié, j'y reviens maintenant. Quel est le premier commandement que Dieu donne à son peuple? Vous savez ce que c'est? Tricheur, il le savait déjà. Non. Hein, c'est... Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, le Seigneur. Le premier commandement, c'est écoute. Parce que sans ça, il n'y a rien d'autre qui peut se faire. Ça suffit pas, mais sans ça, il n'y a rien d'autre qui peut se faire. Écoute. Et donc ça, c'est ce que Dieu veut faire et fait dans nos vies, si on est d'accord. De se dire, bon, bah, ok, oui, il y a cette dispute entre le roi Achab et puis le roi d'Israël, et puis ouais, j'aimerais suivre Dieu, mais j'ai pas envie, mais j'aime vivre, mais j'ai pas envie. Ok, c'est normal. J'ai besoin de la vie de Dieu en moi, de l'action du Saint-Esprit qui vient. Mais sauf que là, en ce moment, je suis dans un état où je ne peux même pas l'écouter. Eh bien, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, célébrant de votre cœur. Entretenez-vous. Alors, je n'ai pas vérifié, mais je ne crois pas que c'est juste un pluriel de politesse. C'est aussi un pluriel de pluralité. J'ai besoin des autres, des fois. Oui, oui, je vis ça tout seul aussi, mais j'ai aussi besoin des autres. Je suis arrivé dans ce week-end, alors j'étais invité, puis les gens attendaient certaines choses. Mais moi, je sortais d'une phase très compliquée intérieurement. Et d'être avec ces gens-là, on s'est fait du bien les uns les autres. Ah, oh, merci pour ce que tu nous as dit. Moi, je vous ai rien amené, mais c'est vous qui m'avez amené. Non, c'est toi, non, c'est nous. Bon, on ne va pas se disputer. On s'est entretenus les uns les autres. Hein. Vous vous rappelez l'image que j'utilisais l'hiver dernier, j'ai recommencé d'ailleurs quand il faisait froid. Hein. Je n'arrivais pas à faire brûler ma bûche toute seule, et puis je mets deux bûches, et parce qu'il y a une bûche contre l'autre, elle brûle. Hein. Ça fait un appel d'air et ça brûle. Quoi. Ben, c'est souvent pour nous comme ça aussi. Entretenez-vous. Alors, ça s'adresse à moi, avec moi, mais ça s'adresse à moi, avec vous, et vous, avec moi, par ben, laisser chanter le harpiste chez nous, jusqu'à ce qu'on entende la voix de Dieu, et là, je vais consentir ou pas à le laisser creuser dans ma vie. Et puis, c'est à la fois tout simple, mais c'est tellement important. Et j'aimerais vous poser deux questions, qu'on y réfléchisse quelques secondes, pas des minutes, ça serait trop long, mais que vous pouvez emporter chez vous. Est-ce que je sais discerner cet état dans ma vie? C'est-à-dire quand ça ne va pas parce que ça ne va pas et puis que j'utilise toutes sortes d'ivresses pour cacher le fait que ça ne va pas. Hein, est-ce que j'arrive à reconnaître cette chose-là? Parce que c'est pas selon notre expérience et où on a grandi et où vous savez, il y a des chrétiens qui ont besoin de faire travailler leur intelligence pour mettre un squelette à leur façon de penser avec Dieu, d'apprendre la Bible, c'est intelligent. Ce que Dieu pense, ce qu'il dit, il dit pas une chose et son contraire, etc. Ils ont besoin de structure, de réflexion. On utilise l'intellect que Dieu nous a donné pour mettre de la structure dans le reste. Mais il y a d'autres croyants qui ont fait tout ce travail-là, mais ils ont juste un squelette. Et il faut de la vie sur le squelette, comme la prophétie d'Ézéchiel. Il faut des muscles, des chairs, des tendons, et puis toutes ces choses-là, qu'elles fonctionnent ensemble. Et du coup, la vie chrétienne, il y a les deux ensemble, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et est-ce que je sais, au-delà de ce qui est vrai, ce qui est doctrinal, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, sachant que souvent on se trompe en plus, mais... En tout cas, sur les grandes choses, c'est simple. Est-ce que je sais reconnaître en moi, quand je suis dans cet état de sécheresse où je vais mourir de soif spirituellement, et est-ce que je sais quoi faire dans ces moments-là? Je vous laisse avec ces questions. Pas du tout, c'est pas... Le Saint-Esprit accuse jamais, donc si vous sentez accusé, c'est pas lui. C'est le mauvais roi ou c'est je sais pas quoi, mettez dehors. Lui, il vient, il propose des solutions, il nous apprend, il nous éduque. Parce qu'on ne peut pas soigner quelqu'un qui ne veut pas accepter qu'il est malade, on le sait tous, hein, le déni, c'est le premier problème pour sortir de toutes les addictions, quelles qu'elles soient. Et il y a aussi une forme de déni, non, mais je connais la vérité, j'ai étudié la Bible, je fais mon culte le matin, je vais à l'église, je fais ci, je suis engagé, je donne ma dîme. Super, faut faire tout ça. Mais là, on parle d'autre chose. On parle de notre vie avec Christ, c'est ça l'évangile, de ce Christ qui est toujours en mouvement, qui n'est jamais au même endroit, qui n'est jamais là où on l'attend, qui ne réagit jamais comme on pense qu'il va réagir, jamais contre la vérité, jamais contre ce que Dieu a dit, hein, dans sa parole. Mais c'est vivant, c'est la différence entre un pantin de bois et un enfant. Hein. Le pantin de bois, il est prévisible, l'enfant, il est imprévisible parce qu'il est vivant. Et l'esprit, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mais en même temps, on est appelé à vivre de ça. Et donc, je dois apprendre à discerner cet état chez moi, au lieu de m'entêter dans mes méthodes pour le cacher. Et puis, ben, je vais apprendre à développer, parce qu'on est tous différents. Le harpiste, chez certains, il joue de l'accordéon, et chez d'autres, du violoncelle, et chez d'autres, de la trompette, et chez d'autres, de la batterie, hein. Il n'y a pas une façon de faire qui est la même pour tout le monde, et même pour nous, on va découvrir que ce n'est pas la même façon tout le temps pour nous. Il y a des phases dans nos vies, il y a des périodes, il y a des moments, mais c'est quand même la même chose derrière qui se passe. C'est que même pour répondre à Dieu qui frappe à la porte, j'ai besoin de lui. C'est assez incroyable. Hein, et on doit toujours apprendre à partir de là où on en est. Si je n'ai même pas envie d'écouter la voix de Dieu, ça ne sert à rien de se culpabiliser. Par contre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire à Dieu, je n'ai pas envie de t'écouter. Ça me fait de t'écouter. Mais je veux bien que tu changes mon cœur pour que j'ai envie de t'écouter. Et on commence comme ça. Il faut toujours descendre au plus bas jusqu'à ce qu'on soit d'accord sur quelque chose. Et là, il peut commencer d'intervenir. On ne demande pas à quelqu'un qui ne sait pas marcher de courir. D'abord, il faut se tenir debout, et après un petit devant l'autre, après marcher, après courir, et après éventuellement faire des compétitions. Et c'est pareil avec Dieu. Revenons là où on peut être d'accord. Et puis on lui dit, j'en suis pas capable, j'en ai même pas envie. Ben, viens me donner envie. Mais je veux être d'accord que tu me donnes envie, même si je n'ai pas envie aujourd'hui. Hein, c'est assez subtil. Et puis là, ben, on va apprendre à écouter cette voix. Et puis, ça ne va pas être des trucs bizarres, hein, d'un coup, là. Non, juste ce qu'on a vécu ce matin. Chacun fait ce qu'il a à faire et se place devant Dieu avec sa sensibilité, avec sa personnalité. Et ça va être traduit avec l'interface de qui il est. Si l'un parle, ce n'est pas comme quand l'autre parle. Si l'un l'exprime, ce n'est pas comme quand... C'est pas ça la question. Et le but, ce n'est surtout pas qu'on fasse tous comme l'un ou comme l'autre. Mais par contre, derrière, il y a la même réalité. L'esprit qui vient et qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous lui appartenons, qu'il nous aime, que nous sommes en sécurité, qu'il nous tient dans ses bras. Et puis sans arrêt, il fait ce travail de déblayage. Quand on étudie la vie des patriarches, on voit que les fils d'Abraham et les fils du fils d'Abraham, ben, chaque génération, il est dit, et ils durent creuser de nouveau les puits que leur père avait creusés. Et puis ils ont été creusés une fois, ils se sont bouchés, et ils arrivent, et il faut les déboucher, et puis il y a du sable, il faut les redéboucher. C'est la vie des êtres humains. On doit redéboucher, c'est le Saint-Esprit qui veut le faire. Seigneur, je te remercie parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as communiqué tes pensées à travers de textes écrits, mais tu nous as envoyé ton esprit pour leur donner vie, et pour que elles ne soient pas juste des concepts ou des idées externes, mais qu'elles deviennent de la nourriture. Tu nous as dit qu'on devait manger ta chair et boire ton sang. Et c'est uniquement par ton esprit que tes pensées peuvent devenir de la nourriture, peuvent devenir quelque chose qui hydrate nos vies, pour que nous puissions vivre de cette vie éternelle, que nous puissions aller de l'avant, pas simplement en faisant ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, mais en étant conduit par toi, Seigneur, et en étant rempli jusqu'à toute la plénitude, afin que nos vies débordent et qu'elles puissent arroser ce qui sont autour, Seigneur. Tu nous as fait cette promesse, ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur vie. Et on veut ces fleuves, Seigneur. Et tu sais comment ça va se traduire pour chacun d'entre nous. On est tous différents. On a nos histoires, nos tempéraments, nos cultures. Mais on veut rien de moins que ça. Être rempli de toi, Seigneur. Et que ça puisse déborder pour cette semaine, pour nos situations, pour nos défis, pour nos peurs, nos inquiétudes. Que nous puissions te laisser creuser en nous et nous remplir, Seigneur Dieu.